Ou tu fais laisser sur le... Et après, il y avait celui-là. Quand je joue fort, ben, ça fait ça.
Donc voilà, messieurs, dames, donc merci d'être là pour cette deuxième rencontre du jardin de l'association Artifocal, dont le but est de promouvoir l'art et les artistes en tout genre, les praticiens, les photographes, les céramistes et les auteurs. Et donc, on a préparé un petit spectacle qui se base sur un livre qui est d'ailleurs en vente ici, un livre familial qui est basé sur des interviews de femmes ayant eu 10 ans pendant la Première Guerre mondiale. Pour ce faire, le poète Fred Gambin, qui vient du Vaucluse, et Françoise, qui est néanmoins ma sœur, qui participe donc à cette aventure avec son piano et ses lectures. Et merci encore d'être là, et à tout à l'heure.
Voilà. Oui, pour dire un petit peu, un livre, hein, au-delà d'être un éventail qui peut servir au souffle, hein, est d'essence vivante, en mon sens. De même que tout artiste, hein, n'est pas un professionnel, pour moi, tout artiste est avant tout un homme, et être humain, c'est être artiste. Voilà. Donc, pourquoi ces textes que nous allons dire? On va les dire parce que quand j'ai eu vent de ce livre, je ne l'aurais pas acheté, je n'aurais pas lu, mais ce que m'en a donné Françoise, transversalement, comme ça, des pages prises au hasard, m'a touché. Parce que ces femmes, je les ai vues dans leur vie. Voyez, et cette dimension orale qu'a su garder le bouquin, parce qu'on vous l'a dit, c'est venu de témoignages, hein, enregistrés, mis ensuite dans des pages, on les sent vivre, ces femmes. Donc ce que j'ai après essayé par inspiration de donner, ce n'est pas dans le livre, ce sont des textes inspirés d'eux. Mais je crois qu'elles sont avec nous. Alors, on vous fait, juste qu'on n'a pas fait hier, un autre texte en intro, qui est en hommage aussi à Artifocal. Je crois que c'est dans la philosophie de votre association, hein, quand il dit promouvoir des artistes, c'est à mon avis tout faire vibrer ensemble l'art. Hein, et chacun ici peut y contribuer. Voilà, donc c'est un peu ce premier texte qui s'appelle L'anneau de vie. Qui veut essayer de donner ça? Excusez-moi, je vous montre une. On y va, go. La note, comme un état de siège au bord de l'être, la note, celle qui note au bas de ses versets, la rature essentielle, bavure, oh, bavure, tu saignes, de ses taches levées pour bleu le ciel, et là, je saigne le vrai, je saigne, pour nous, par nous. Par des peaux se lèvent dans les voiles, je déchire. Ce n'est plus moi, petit, qui regarde ce feu. C'est lui le feu qui brûle. Et nous montons au silence. Les marins vivent leur estage. Thank you. mémoire folle s'est enfuie. Et ça finit par la note. Bon, on va essayer d'être un peu plus dans la musique.
Alors, on va vous présenter. Qui c'est qui n'était pas là hier? Non, on va. Donc, ce livre, il a été écrit donc par. Par des témoignages enregistrés. Et je voudrais juste vous lire un petit paragraphe que. L'auteur, donc, qui parle de sa tante, qui, donc, nous, était notre grande tante. Elle avait 97 quand elle mourut. Depuis, les hommes la laissent tranquille. Sauf moi, son filleul, respectueux et aimant, qui suis venu lui tirer les pieds pour dérouler le film de ses années et mettre un peu de plus de sens et de justice dans l'histoire de sa vie. Donc, c'est une femme qui a passé sa vie au village avec sa sœur. Elle était née, elle, en 1897. Et toutes les deux ne se sont pas mariées parce que leur promis a été tué à la guerre. Et alors, moi, juste ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, c'est que ces femmes d'une grande humilité, qui étaient des paysannes, qui ont raconté toute la vie, qui racontaient la vie des villageois, la vie des gens aussi partis à la guerre, ont ouvert un peu une petite fenêtre et moi j'ai redécouvert ce que finalement toute la profondeur de ce qu'elles pouvaient apporter ces femmes. Alors que quand j'étais enfant, c'était des mamées intéressantes qui racontaient des histoires, mais là tout à coup je crois que grâce à ces témoignages et grâce au fait de pouvoir y revenir, j'ai trouvé autre chose. Alors je vais vous lire donc un passage qui parle de cette vie des femmes au village pendant la guerre, pendant que les hommes, donc au village de Rochefort-du-Gard, pendant que les hommes étaient au front. Marie-Rose avait 16 ans et en 14. Et voilà ce que. Là c'est Joseph qui parle, c'est l'auteur qui dit. Des visites du garde pour annoncer qu'un tel ou un tel était tombé au champ d'honneur. D'après ce qu'on peut lire sur le monument aux morts, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu 42 en 4 ans, presque un par mois. À la fin, ça devait être difficile pour les filles de trouver un mari, car sur 3 hommes du village valides d'une trentaine d'années, partis en septembre 14, un avait été tué ou avait été porté disparu. Un autre avait été blessé, mutilé, gazé, ou avait eu, involontairement ou volontairement, pour en finir avec cette guerre horrible, les pieds gelés. Le troisième, arrivé sain en apparence, était profondément traumatisé et n'avait guère envie de festoyer en de justes noces. Par exemple, le prétendant possible de Marie-Rose, Paul Rouquette, que l'on voyait dans les rues, tout sang et si fatigué, avait été gazé et craché ses poumons.
On s'est défilé de mort. Retour des hommes au village. Allez les voir. Allez les voir. C'est pas des clowns, juste des titubans sur pattes. Du ciel sur la terre. Je vous rappelle ces bonhommes, des bêtes pour faire abattre. Alors le pain, tu convides à la pionnière. Il se dit pas cette plutôt tassée bière, Paul. C'est à la rue. Les petits poils, Georges, il a des gants. C'était qui bégaye à présent. T'attends les tortures, ça vous mord la langue, et le reste. Mon Dieu, vous m'avez donné à parler, vous m'avez appris à donner. Plus que des mots. Où êtes-vous par ce matin pour voir revenir au village des hommes défunts du visage, d'avoir vu leurs amis crever, d'avoir tant vécu dans les plaines? Sommes-nous dans cette histoire de poils partout là? Ça fait gâteau dans la mémoire. On en fera des monuments. On en fera des monuments. On en fera des monuments. Moi, c'est mon cœur que je retiens pour qu'il ne tombe pas.
Marie-Rose, elle, dans le village, elle était appréciée pour ses talents de cuisinière, mais elle était aussi devenue indispensable parce que c'est elle qui s'occupait de la toilette des morts. Pour Marie-Rose, elle reporta sa grande puissance d'humanité sur les êtres ou les familles qui allaient ou venaient de perdre un être cher. C'était elle qui prenait en charge les toilettes funéraires et qu'on appelait pour cela. Ainsi, d'une certaine manière, en assistant les personnes en deuil, elle accouchait à la mort. Comme la vieille Sophie, son amie accouchait à la vie. Donc, cela a inspiré ce texte à Fred. Véla Marie, hola Sophie, véla Marie à charge de vêtir. Doigté de femme oblige, oh la Sophie, leur vie parmi les pleurs en couche, à couche et couche. Éclat de vie, Sophie, éclat de mort. Ce jour même où il fait froid, on va se la donner la joie. Fille rivière font le vivre et couche à corps perdu dans la vie. Folle, allons chanter quand le village est mort. Véla Sophie, véla Marie. Plongeons bordant, berçons l'avant. Belle à mourir, ouvrant ses yeux, fermant ses yeux, belle à rougir. Pour les vivants, Sophie, la Marie, pour les morts. Sophie, Marie, l'entrée, la sortie du village. Offrant premier, dernier sourire. Tout ce qui nous rassemble ici, et couche à couche, éclat de vie, Sophie, éclat de mort, Marie. Rose aux doigts roses, d'habits et roses brassées de tous les âges. Véla Sophie, oh, la Marie.
Si vous voulez, on la fait à la fin pour danser ensemble. Tango, basse, comme vous voulez.
Alors, Raymond.
Bon, Raymond. Alors, si j'en parle, je vais perdre la mémoire comme tout à l'heure.
Alors, Raymond avait été enterré plusieurs fois sous les décombres des bombardements. Et il était revenu de la guerre foncièrement taciturne. Il avait repris son travail à la ferme, aux côtés de sa sœur et de son beau-frère, plus jeune et mieux planqué, qui était resté éloigné des combats et qui tenait les cordons de la bourse. Comme on approchait de Pâques, il dit à son beau-frère, de son parler très laconique, « Pour les fêtes, je veux que vous m'achetiez un costume neuf. » L'autre se moqua de lui. « Un costume neuf ? Mais tu ne sors jamais pour aller boire ton café au village le dimanche, après-midi. Le costume que tu as est bien assez bon. Tu m'achèteras un costume neuf, ou bien je te tuerai. » Les fêtes passèrent sans que le costume soit acheté. Un jour où le beau-frère revenait de la ville, comme il venait d'emprunter le chemin qui menait au mas, il fut atteint à la tête d'une décharge mortelle de chevrotine. Raymond se constitua prisonnier à la gendarmerie de Villeneuve. Jugé pour meurtre, il fut envoyé au bagne à Cayenne. Il y retrouva nombre de ses camarades, condamnés pour avoir refusé de monter des tranchées. L'abbé Dibon, un parent à Mamé Rose, aumônier au bagne, quand il venait dire bonjour à la famille à Rochefort, déclarait toujours que Raymond était un homme d'une très grande bonté et qu'il avait fallu que l'insulte soit ressentie très fortement pour qu'il s'en venge aussi sévèrement.
Il était déjà mort deux fois. Comment voulez-vous qu'il revienne ayant sourire à son crépant? On l'avait enterré deux fois. Il s'était déterré deux fois. Il était déjà mort deux fois. Comment voulez-vous qu'il revienne ayant sourire à son trépas? Il s'était déterré deux fois. Oh merde. J'y suis pas là. J'y suis pas, excusez-moi. Il était déjà mort deux fois. Comment voulez-vous qu'il revienne ayant sourire à son trépas? Deux fois qu'on l'a enterré. Deux fois qu'on l'a enterré. C'était pas des belles tranchées. Funeste de ses bons. Il s'était déterré deux fois. Il s'était déterré deux fois. Meurtri des bras, des pieds. Meurtri, portant en croix de tous ses cris. Il n'avait plus rien dans la voix. Alors au café, il entra. Et dans ses yeux brûlait la fièvre. Je vais au rendez-vous de bière, paupières bombardées de noir, chemin des matchs. De battant guerre aux raisons de fumée, moi, ils ne mettent plus rien pour espoir, ils ne mettent plus rien pour prière, seul, là, se sent tordu de pierre. C'était un homme comme il faut, on le disait gentil, avant qu'à présent il porte. La chevrotine en dit l'écho. La chevrotine en dit l'écho, sans que ce soit, sans que ce soit là de son choix. Il était déjà mort deux fois. Comment voulez-vous qu'il devienne?
N'applaudissez pas, je vais me faire engueuler. Bon, on en reparle. Hein. Restez longtemps ce soir, donc.
Alors non, c'est à moi, c'est pas... je me blonde. Alors, la chanson de la petite boîte. Les prisonniers... Pardon, pourquoi je dis les prisonniers? Non. La chanson de la petite boîte, en fait, la tante, elle racontait que... Enfin, elle avait gardé cet objet chez elle, c'était une boîte dedans avec du fil, des aiguilles et un dé. Et c'est le seul objet qu'elle a gardé de son frère qui était rentré du front, donc c'est le seul. Elle avait égaré les photos si chères qu'il l'avait emporté au front, parce que pour les soldats c'était très important d'avoir des photos de la famille. Donc il avait ramené ses photos et cette petite boîte, et il lui restait donc la petite boîte. Et là, c'est la chanson de la petite boîte.
C'était sa boîte à musique.
Là, de la main, j'y suis, ça peut faire une vie, déroule. Il est venu ce jour de foire,
obus mortiers de mort tranchée, tout part en vrille. Oui, ça peut foirer le temps, des coups pardis, des morts pour rien gangrène. Là dans la main, ça peut partir d'un rien, vient en son tour l'ami gangrène. On n'en retourne pas l'ami de guerre, un bras coupé l'ami. Comme un jour de travers, là prends la main, y a pas photo, même pas beau, mais tu es là. Quand je vois ça, ça fait du bien.
Ah, boisson. De tous les morts, des fils, des filles, il n'y a pas champagne, il y a la vie, sous le ciel on aura mis la boue. Dites-le est, ceci, à travers sang. Viens dans son tour du jour, la boîte agit du jour, on n'en reviendra pas l'ami. Coupez la boîte agit, ça fait tant l'heure aux yeux de voir. Quand la chaleur donne sa part, reste la boîte par magie. Tiens là, vas-y, cherchez l'aiguille du temps, qui n'a plus cours ici. Je l'aurai rapiécé la vie. Et la petite voix qui dit, comme une lettre, cette voix.
Oui, je reste contre toi, le poste de secours des lits. Dedans du fil comme une aiguille, comme un poinçon se délivre. Lumière, notre petite boîte reste, chose en secours. Qui sait pourquoi l'on vit?
Qui sait pourquoi l'on vit?
Qui sait pourquoi l'on vit?
Tu sais pourquoi? Alors, à vous. Alors, un colis pour chanter, si je peux me permettre d'en rajouter encore un peu. C'est un peu du même ordre, c'est-à-dire que, imaginez un homme à la guerre qui reçoit de sa famille un petit colis. Limite, il se met à recroire au Père Noël. Là, le monsieur disait à sa famille, si vous m'envoyez un savon, utilisez-le avant, parce que sinon le colis sera ouvert et le savon me sera pris. Donc, vous l'utilisez, en plus vos corps seront passés hein, avec le savon, et moi, quelque part, par transfert, je serai avec vous. Voilà, donc c'est là-dessus.
Donc là, Marie-Rose dit, ça c'est la cassette, donc la transcription de l'interview, Marie-Rose... Là, c'était difficile de leur envoyer quelque chose. Rouvière écrivait, si vous envoyez un morceau de savon, servez-vous-en avant de l'envoyer. S'il est neuf, on nous le vole. S'il était usé de tous les côtés, on ne lui prenait pas. Et Marguerite, donc la sœur cadette de Marie-Rose, qui ajoute, alors, quand on prenait du savon, on lavait de tous les côtés. Parce que ça nous arrivait des fois qu'avec du suif, avec tout ce qu'il fallait, on en faisait, Marie-Rose. Mais lorsqu'on lui envoyait de celui qu'on avait fait, on n'y prenait pas, Marguerite. Et la patronne disait, « Augusto, vous pourrez laver les choses des petits ?»« Ah, couilloste, elle y lavait les siennes. » Alors il acceptait, il disait, « Pourvu que j'en ai assez pour me laver, moi. » Oh, il y en a qui en ont passé de dur. Fernand en a passé une très dure, étant prisonnier.
Mon Dieu, je l'aime ce savon. Passez-le-moi sur la poitrine. Lavez-vous tant que j'en dessine tout son palpant noirci de vie, de bonne suie. Des deux côtés, n'hésitez pas, savonnez-le bien ce savon, que je sente le temps d'un rêve, un peu moins là, bomber les tombes. J'aime à savoir votre peau là, toute de vie passée dessus. Pensez à l'user ce savon, si vous le voulez m'arriver, qui libre son compte en colis, sans que les autres ne le gardent. Et dans le grand bain de famille, je me fais la joue belle au-dedans. Tout à la fumée du foyer, on barbe les cris des tranchées, petit savon, toi qui m'emballes, plutôt que de se tirer balle. Toi qui dis vrai, lavant les cris, lavant les plaies, lavant les pieds, savonnant ces tranchées meurtries, jusqu'au temps qui tue mes amis, de froid, de feu, malgré la mort, gerçant les os, les corps, la peau, malgré ces douches tant glacées du ciel qui tombent en mortier. Y a que quand tu nous viens, je vis cet homme, ensemble. Mon Dieu, je l'aime ce savon. Passez-le-moi sur la poitrine, lavez-vous tant que j'en dessine tout son palpant noirci de vie, de bonne suie. Savonnez-le bien, ce savon, que je sente le temps d'un bain, un peu moins là, tomber les bombes.
Curieux personnage, Pascalet. Et Pascalet, alors, simplement pour dire que Pascalet, c'était un. Bon, c'était quelqu'un qui était un peu opposé, c'était un insoumis, et qui n'était pas du tout d'accord avec ce qui se passait. Essayons d'imaginer la révolte de Pascalet. Ses frères avaient été tués, tous les deux, le même jour, suite à la terrible habitude de mettre les membres d'une même fratrie dans la même unité de combat. Ses camarades venus du monde ouvrier, eux, avaient regagné leur usine à l'arrière pour soutenir l'effort de guerre. Ou bien ils avaient été nommés à des armes mécaniques comme l'artillerie ou les transmissions. Il se retrouvait donc, lui, le paysan, comme les autres paysans, ses frères, avec un billet pour la première ligne du front. Sur le plan de la guerre, le nouveau chef des armées, Philippe Pétain, même s'il l'avait voulu, ne pouvait pas revenir sur l'engagement suicidaire du général Nivelle. Ce n'était plus comme dans le cri des adjudants qui poussaient à sortir des tranchées « En avant ou la mort !» Il fallait bien s'y résigner, c'était maintenant « En avant » et « La mort ». Pascalet le savait. On avait le choix entre une balle dans le dos par le sergent fou furieux qui faisait monter les hommes de la tranchée ou se laisser faire prisonnier le plus vite possible au risque de périr sous les balles d'un sous-officier allemand ou d'être déporté en captivité loin dans l'Allemagne profonde. C'est pour ça que des bruits couraient de mutinerie, d'insoumission, de groupes qui, au lieu de lui obéir, avaient tiré sur l'officier qui les commandait. Donc il y eut à Noël, quand les tranchées allemandes et françaises étaient très proches, des fraternisations entre soldats ennemis, mais aucun poilu n'avait songé à s'en vanter. Elles étaient restées secrètes, autant que possible, de peur que l'état-major, en représailles, bombarde le régiment. Pascalet avait entendu à ce propos ressortir les idées de Jaurès sur l'international des gens du peuple, et il les avait prises au mot. Comme il connaissait aussi bien le dédale des parcelles où l'on cultivait les légumes, que tous les bois où il avait chassé, autour des baux de Provence et de Saint-Rémy, au lieu de regagner sa caserne, il avait pris le maquis. Quand il manquait un pantalon ou une chemise à l'étendage, ou que la tranche de viande mise au frais sur la fenêtre avait disparu, on disait, nous savons qui c'est. C'est Pascalet, le déserteur. Juste après la guerre, alors que l'amnistie n'avait pas encore été promulguée, Pascalet pouvait descendre, raseter dans l'arène pour les courses de taureaux, croiser les Dioudans dans leurs courses pour leur prendre la cocarde et aller chercher auprès du jury les prix qu'il avait gagnés. Les gendarmes fermaient les yeux. Comme pour le capitaine Conan dans le film de Bertrand Tavernier, le retour à la vie normale, disent les tantes, n'avait pas été facile. Mais des fois, elles sont tellement mauvaises langues. Il avait vu si souvent la mort en face et toutes les faiblesses humaines face au danger. Comment aurait-il pu vivre normalement dans un monde sans guerre? Surtout, il n'avait pas respecté le grand interdit, celui que le groupe dictait aux individus de ne pas se dérober au combat des tranchées et de risquer sa vie pour la patrie. Alors, comment aurait-il pu respecter les interdits bénins de la vie quotidienne? On raconte qu'une fois amnistié, pour survivre, il vendait aux paysans de l'engrais dont il avouait lui-même en riant qu'il était surtout composé de sable du Rhône. Plus tard, on dit même qu'il fit travailler des femmes sur les trottoirs d'Avignon. La dernière image qui arriva de lui fut celle de seconde main que donnèrent certaines personnes. Chez les carisseurs, pour qui il travaillait, il était tellement insensible à tout ce qu'il avait coutume de... Il était tellement insensible à tout qu'il avait coutume de prendre son repas sur le cheval mort qu'il était venu chercher avec sa charrette. Il dépliait son papier gras, à même l'animal, et placidement, assis sur le cul de la bête, mastiquait son saucisson ou son fromage. Peut-être l'odeur lui rappelait-elle celle des tranchées.
Il faut expliciter un des termes du texte, pas racler. Quand j'ai lu ces pages, j'ai lu, comme vous disiez, un peu transversalement, et j'ai lu pas racler, qui est l'Esprit Saint. Donc il y a un échange entre Pascalet, le déserteur, le révolté, et l'Esprit Saint. Parce que je crois qu'il y a un peu de Pascalet en chacun de nous, et de pas racler de même. On va essayer. Paraclé, où t'es passé, il y a paraclé, c'est pas raté, tu vois, t'es fait de temps, de nous. Tu peux te le siffler partout, au cul du loup. Allons autant que chaperon par les forêts du cœur battant. Rejoins-nous là, mon déserteur, non point là pour planter des bombes, par les genoux. Allons siffler, au cul du loup. Paraclé, où t'es passé, y a pas raclé, c'est pas raté, tu vois, t'es fait de temps, de nous, tu peux te le siffler partout, au cul du loup. Tout à l'instant que je l'écris, vous aussi regardez ces feux, il faut quelque chose à la nuit, à sang, remettre un peu d'esprit, et ces lumières en battues. Ça claque, des braises, de lune, Jojo, Rouvière, ces maquisards de la poussière, l'autre Victor, Jeanne, aux paupières, de cette vie qui veut le jour. Et Pascalet, on y arrive au Pascalet, on y arrive au Pascalet, on y arrive au monde paral. Au Pascalet.
La prochaine fois, Christophe, à la brume, parce que sous cette douceur chaleureuse du soleil, là, j'ai eu mes rappeurs.
Ah, il fallait venir hier, Fred. Hier soir, ça y est, beaucoup plus calme. Alors, c'est juste pour vous informer donc, que ce livre est paru aux éditions Hasard Atelier, une petite maison d'édition tenue par des gens qui se donnent beaucoup de façon relativement bénévole, voilà. Et notamment, il est en vente à 14 euros, et il est ici, si ça vous intéresse. Voilà. Alors, j'en profite ici, même si tout n'est pas terminé concernant ce spectacle, pour remercier la radio Canal Sud, qui vient nous faire l'émission. Donc, on pourra ensuite retrouver sur le site internet d'Artifocal.